Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer, pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans ces Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes tous et toutes importants à tes yeux. Amen. Je vous propose de lire ce matin dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient effrayés par ces paroles, mais Jésus reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple dans le temps présent maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Ce récit comporte un mot rare dans l'évangile de Marc. C'est même un mot dont c'est l'unique usage de la part de Marc. Car si on peut le lire à deux autres reprises dans ce même évangile, c'est à l'occasion d'une citation des Écritures hébraïques. Alors un mot unique, cela attire l'œil. C'est comme si Marc avait déposé là un indice extrêmement important comme un phare clignotant. Car il faut dire en plus que ce mot unique dans l'évangile de Marc est un mot présent à plusieurs reprises dans bien d'autres livres du Nouveau Testament. Et même dans le quotidien, c'est un mot très courant et qui ne relève pas forcément de la sphère religieuse ou spirituelle du langage. Donc, pour la raison qu'il est exceptionnel dans l'évangile de Marc, ce mot représentera la porte d'entrée de ce texte pour la prédication de ce jour. Et vous avez déjà bien sûr compris que ce n'est pas le mot chameau, parce qu'il y a deux chameaux dans l'évangile de Marc, mais c'est le verbe aimer. Jésus le regarda et l'aima. Marc n'est pas Jean. Jean, lui, fait de l'amour l'assise fondamentale de son évangile d'un bout à l'autre. Et il l'écrit un nombre considérable de fois. Dans l'évangile de Marc, si Jésus prononce deux fois le verbe « aimer » en citant, vous savez, le plus grand commandement et celui qui lui est semblable, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain », une seule fois, Marc l'emploie de lui-même pour écrire que Jésus aima cet homme. Eh bien, qui aima-t-il ? Jésus. Quelqu'un qui ne fait qu'une très brève apparition, qui vient en courant et qui repart rapidement après un bref échange, tout assombri et attristé. Alors bien sûr, nous pourrions nous demander pourquoi Jésus l'aime, celui-là. Faire la liste de toutes les qualités de cet homme qui le rendrait aimable. C'est lui qui a l'initiative, qui court vers Jésus, qui lui manifeste beaucoup de respect en s'agenouillant devant lui, en l'appelant « bon maître », qui témoigne de sa piété par son souci de la vie éternelle et par son observance des commandements depuis son plus jeune âge. Il n'y a aucune raison de penser que sa réponse à Jésus n'est pas sincère. Et pourtant, ce qui avait si bien commencé se termine dans l'assombrissement, la tristesse et la séparation. Mais Marc n'écrit pas alors que Jésus ne l'aime plus. Il est vrai que l'amour dont il est question ici n'a rien à voir avec un sentiment. Et que surtout, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, pour reprendre les expressions de Marc à l'ouverture de son évangile, Jésus ne témoigne pas d'un Dieu qui se rend proche, qui libère, qui relève sous condition ou en récompense de qualité ou de comportement particulier. Ainsi, chercher des raisons pour lesquelles Jésus aime cet homme va à rebours de la dynamique même de l'évangile. Voyons plutôt, parce que ça nous pouvons le lire dans le texte, comment Jésus aime cet homme. Comment se manifeste cet amour ? Cela se manifeste parce que Jésus lui dit « Il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. » Nous pourrions entendre ici l'expression d'un amour exigeant, parce qu'à travers l'homme de Nazareth, il est question de l'amour divin. Et nous serions alors, chers amis, aussi tristes que l'homme de n'être pas capable de répondre à cette exigence. Surtout que nous savons bien que quelques-uns très éminents l'ont fait, par exemple François d'Assise. Mais nous, non. Mais nous pouvons aussi interpréter autrement ce que Jésus dit à l'homme qu'il aime, en étant attentif, encore une fois, à un mot de la réponse. Il te manque. Le verbe « manquer », c'est celui qui incite à la réflexion et à l'interprétation. Il manquerait donc quelque chose à l'homme. Et en tout cas, lui le pense, puisqu'il vient voir Jésus pour cela, pour savoir ce qu'il a à faire de plus que ce qu'il a déjà fait pour hériter de la vie éternelle. Que faut-il faire pour que l'existence prenne le sens de la vie éternelle ? Que faut-il faire pour mener sa vie à sa plénitude, à son accomplissement ? Il y a là une inquiétude profondément spirituelle que les religions prennent en charge avec des enseignements, des rites, des images de Dieu, des représentations de la vie et de l'au-delà de la vie. Cependant, dans sa quête absolument sincère, l'homme est resté insatisfait, soucieux, soit qu'il ressente par lui-même que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant, soit qu'il craigne que cela ne le soit pas. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Cette inquiétude, Cette insatisfaction alimente tant de fonds de commerce de développement personnel, tant de recherches et de compilations plus ou moins individuelles ou collectives des réponses des différentes religions, et font également apparaître bien des chemins assez originaux tracés au fil des quêtes de telle ou telle personne. Que dois-je faire ? Jésus aime l'homme qui manque et qui cherche ce qui lui manque. La réponse de Jésus pourrait combler ce manque. Une seule chose à faire, une dernière, et c'est gagné. Toutes les conditions seront remplies. Mais c'est justement ce que l'homme n'est pas capable de faire. Parce qu'il a de grands biens et que ses biens, ses possessions, constituent comme un filet qui le retiennent, l'enserrent et l'empêchent de s'en détacher. Seulement, s'agit-il vraiment de cela ? Ce que répond Jésus est-il la solution ? Ou est-ce une incitation à réfléchir plus en avant sur ce qui manque ? Est-ce vraiment de quelque chose de plus à faire dont manque cet homme ? Certes, le comportement, l'éthique, c'est très important. Mais lorsque Jésus ajoute encore une chose à tout ce que l'homme a déjà fait, il lui indique en quelque sorte l'extrémité, l'extrême de sa démarche, une seule chose. Mais ce n'est pas pour ajouter une dernière chose à la liste. C'est pour conduire cet homme qui ne peut pas faire ce que Jésus dit. C'est pour le conduire au seuil d'une réflexion que l'homme doit mener lui-même. Une réflexion sur le manque, sur le plein, sur l'existence. Car ce qui manque n'est pas toujours à combler par un faire supplémentaire. Et en ce qui concerne la vie éternelle, le règne de Dieu, le salut, la plénitude d'une existence et son accomplissement, ce qui manque n'est pas à combler par un faire en plus. Ce n'est pas quelque chose qui manque à l'homme, c'est lui qui manque quelque chose. Il manque le sens de la loi, le sens de la bonté de Dieu, le sens de la vie éternelle. Il le manque, il passe à côté, paradoxalement, parce qu'il le replie sur lui-même, tout plein de lui-même qu'il est. Ce que sa bonne volonté et sa piété n'ont pu contrarier en le décalant un tant soit peu de ce souci de lui-même. Mais c'est très fréquent que l'humain confonde la quête de lui-même et la quête de Dieu, même si, ainsi que l'écrit Jean Calvin, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi sont choses conjointes. Le souci de soi-même, c'est un souci envahissant, insidieux. Et toute possession qui joue le rôle d'assurance, de garantie de soi-même, ne fait que renforcer ce souci. L'accumulation de possessions, que ce soit en biens matériels, ou en savoir, ou en pouvoir, en réputation, en héritage, et même en identité de nation ou de clan, cette accumulation est le symptôme d'une situation de dépendance qui asservit l'humain, parce que la solution apportée, l'accumulation comme assurance, ne résout pas cette angoisse de ne pas pouvoir y arriver tout seul. Ne résout pas l'angoisse d'être dépendant. Parce que nous ne pouvons pas être vivants tout seuls. Nous ne sommes pas, nous autres humains, des êtres indépendants et nous ne pouvons pas nous faire nous-mêmes. Et cela peut générer une grande angoisse que l'on cherche à combler en remplissant, en remplissant, en remplissant. Mais cela est vain. Nous ne pouvons pas arriver tout seuls à la vie éternelle. ni la gagner ou la mériter. Et c'est ce que Jésus cherche à faire comprendre à l'homme en ajoutant un plus un à faire au déjà plein de cet homme qui a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Un plus impossible à faire puisqu'il s'agirait pour lui de se défaire. Et qu'en se défaisant de quelque chose, il craindrait de ne plus être. Lui qui s'évertue à être en faisant. Ce que fait Jésus, c'est de mettre l'homme en face de ses propres contradictions, des contradictions intérieures que chacun, chacune de nous peut reconnaître. D'une part, la contradiction entre la recherche d'une garantie d'être, une identité assurée et bien maîtrisée, et l'insatisfaction de la solution et l'insatisfaction résultant de la solution qui consiste en accumuler, en accumulation. Et puis d'autre part, la contradiction entre une sincère aspiration à l'évolution et au changement et la peur de ce changement et de cette transformation. Ce n'est pas quelque chose à faire qui manque à l'homme. C'est l'homme qui manque son être. Tous ses commandements, ceux qu'il respecte depuis son plus jeune âge, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour son bénéfice, pour qu'il puisse mériter, hériter la vie éternelle. Ce sont des commandements pour orienter les relations de l'humain vis-à-vis d'autrui, au bénéfice d'autrui, afin que l'autre ne soit pas spolié, écrasé, tué, maltraité. C'est dans cette disposition vis-à-vis d'autrui que l'humain peut être et vivre en assumant sa condition de dépendance. C'est à travers ses relations à l'autre que l'humain existe. Parce que l'être humain, en tant qu'être de relation, n'est pas indépendant, autonome. Le sens de la loi est de lui permettre de vivre avec les autres en se souciant d'eux. Et c'est ainsi qu'il est humain vivant. Mais lorsque nous nous situons avec nos biens matériels, avec notre piété ou notre identité, avec nos savoirs ou nos convictions, avec n'importe quel domaine de notre existence, dans un rapport d'assurance ou de garantie de soi, nous manquons notre être. Et nous manquons les autres, dans leur singularité. Et nous manquons la liberté. Parce que la liberté dans les Écritures et la liberté évangélique, c'est une liberté par rapport à soi-même. C'est déjà ce que signale Jésus lorsque l'homme l'appelle « bon maître ». « Seul Dieu est bon », rétorque Jésus. Et cette affirmation représente une manière de rappeler à l'homme que cette bonté le précède chaque existence comme un don, pas une récompense. Un don de bonté qui crée l'humain vivant en humain. Et c'est cette dépendance-là fondamentale et spirituelle qu'il s'agit de comprendre, de reconnaître et d'assumer. C'est cette dépendance-là qui délivre l'humain des oppressions qu'il cultive parfois avec application en croyant qu'elles le rendront libre. Jésus aime cet homme qui manque ce qui lui manque véritablement, qui ne comprend pas, qui se trompe lui-même en toute bonne foi. Cet homme entravé par sa bonne volonté d'obtenir la vie éternelle. Et Jésus articule à nouveau, de manière nouvelle, l'expérience d'être, l'existence, non au faire donc, et encore moins à l'avoir, mais au don reçu. Bonté, grâce, vie éternelle. Salut. C'est cette articulation-là qui ordonne l'humain dans de justes relations, dans une dépendance qui n'est pas angoisse qui n'est pas aliénation, mais reconnaissance. On pourrait encore le dire autrement, cet homme manque de recevoir, car il a déjà, pour lui, il y a déjà un trésor au ciel, le trésor de la bonté de Dieu, le trésor du don de ce qui fait vivre hors du souci de soi dont pâtit l'homme et les autres avec lui. Mais se confier en la bonté de Dieu, se confier en une confiance originelle pour celui qui se situe dans une logique du faire et de l'accumulation, pour celui qui confie son existence à cette logique jusqu'à s'y perdre comme une addiction, jusqu'à en être possédé, c'est impossible. Comme de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Mais Jésus conduit l'homme au commencement de cette prise de conscience. Là où l'échec des assurances que l'on se donne peut laisser la place à l'accueil du don d'un autre, au recevoir, au risque de la confiance. Là où le désir de vivre se laisse rencontrer par le don de Dieu. Et c'est ce don après qui agit, qui œuvre pour une conversion intérieure, un renouvellement de l'intelligence qui réoriente l'être, et c'est alors toujours un miracle qui témoigne d'un trésor dans le ciel, celui de l'infinie réserve de possibles malgré tout dont Dieu est la source. Jésus l'aima, cet homme qui ne le suivit pas. L'amour du Christ, l'amour qui est le Christ, c'est de vouloir que l'être humain vive. Aimer, c'est vouloir que l'autre vive, de vie vivante. Et personne n'est exclu, et personne n'est obligé. Jésus, en tant qu'homme et en tant que Christ, dépend lui-même des relations, parce que lui vit pour donner ce qu'il a reçu, pour donner, pour restaurer, pour relever, pour éveiller. Jésus le Christ aime et il donne l'amour, comme il fait passer la bonté de Dieu, puisque ni l'une ni l'autre ne se possèdent, mais se reçoivent seulement et se transmettent par nos paroles, par nos actes, par notre vie. Et c'est Dieu lui-même qui passe ainsi à travers nous, au risque de la confiance, la nôtre en la sienne. Amen.